Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 25 mars et aujourd'hui je vais vous proposer, dans le cadre de ces échanges que nous avons sur ce qu'on peut appeler de l'éducation populaire, de vous faire part d'un article qui est paru dans le dernier numéro de La Raison sur le Bund. Alors nous allons y revenir tout à l'heure, mais auparavant, je voudrais indiquer que le rassemblement dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans ces chroniques, le rassemblement qui s'est tenu samedi dernier à Périgueux devant le palais de justice dans le cadre de la journée internationale contre le racisme et le fascisme a rassemblé quelques dizaines de personnes et avait le soutien donc d'un certain nombre d'associations donc que j'avais indiquées, hein, dont j'avais donné la liste précise lors des précédentes chroniques. C'est bien évidemment un dossier qu'il va être nécessaire de continuer à suivre et à se mobiliser sur cette volonté, cette exigence d'abrogation de la loi Darmanin, parce que effectivement nous avons là une loi qui est complètement liberticide et qui soulève d'ailleurs des tas de problèmes annexes. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine chronique. Alors je vous disais tout à l'heure, à l'instant, que je vous propose la lecture d'un article paru dans La Raison du mois de mars sur le Bund. C'est le dossier du numéro de mars de La Raison, donc La Raison, la revue mensuelle de la Fédération nationale de la libre pensée. Qu'est-ce que le Bund ? Eh bien, voilà, je vous lis l'article et vous allez voir que cette organisation juive antisioniste a joué un rôle important entre la fin du 19e siècle et jusqu'à, on peut dire, à la moitié, à peu près, du 20e siècle. Donc voilà ce que nous disons dans ce numéro de La Raison. Il est évidemment impossible de résumer en quelques pages l'histoire du Bund, c'est-à-dire l'Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie. En outre, l'historiographie est assez décevante, du moins en langue française, alors que, comme souvent, la littérature anglophone est de qualité, mais non traduite. On fait grand cas de Henri Mincelles, qui a écrit « L'histoire générale du Bund, un mouvement révolutionnaire juif ». Mais ce n'est pas l'ouvrage d'un historien, beaucoup plus celui d'un apologiste revendiqué, ce qui est plus honnête qu'un apologiste honteux. Relevons ainsi une approximation. Trotsky aurait été favorable à la fin de sa vie à l'idée sioniste, alors que le même Trotsky écrit en 1939, il, les sionistes, était en train de préparer aux Juifs un beau piège en Palestine. Le Bund des origines. Celui-ci est une des conséquences de l'industrialisation, ou plus exactement, de l'urbanisation relative de l'Empire tsariste, Pologne comprise, et donc du déplacement d'une grande partie de la population des villages juifs vers les villes où, si elle maintint l'artisanat et commerce, elle devint également main-d'œuvre. Soulignons le structurel antisémitisme de l'Église orthodoxe et du tsarisme. Le Bund est d'un lieu empire tsariste et d'une époque, existence nouvelle de prolétaires juifs dans un contexte antisémite. Tout naturellement, ces prolétaires exploités en tant que tels et opprimés comme juifs se regroupent. La soumission des rabbins au régime tsariste contribue au détachement de la religion de ses ouvriers. Ces premiers pas en direction d'une organisation des travailleurs juifs, dit donc Henri Mincelles, remonte à 1887, exactement 10 ans avant l'apparition du Bund. Il ne s'agit pas d'un mouvement qui est parti du néant pour former un mouvement politique. Plusieurs réponses politiques se formulent dans et contre cette situation d'antisémitisme organique. Elles sont infiniment nuancées et Mincelles par différentes complexités. Retenons les principales. D'abord, le sionisme. Fondé à Bâle en août 1897 par Theodor Herzl, revendique un territoire propre aux Juifs qui, il faut le noter, n'est pas obligatoirement la Palestine. Le peuple sans terre doit avoir une terre. Il a comme partenaire voulu l'impérialisme, il a des racines de classe, la bourgeoisie juive veut exfiltrer les prolétaires et les artisans juifs. Il faut prendre en considération le terreau des deux mouvements, sionisme et Bund, la population juive d'Europe de l'Est, essentiellement en Pologne, est une population ouvrière et artisane, très rarement bourgeoise, sauf l'intelligentsia au sens large. À cette époque, le sionisme est faible, voire marginal. La population juive à l'Ouest est, pour une très large part, intégrée malgré l'antisémitisme ambiant. Elle participe, ici ou là, significativement, à la haute bourgeoisie, banque notamment. Elle voit arriver avec horreur les pouilleux échappés des ghettos. Elle cherche à les détourner. Elle est donc attirée vers le sionisme, ou du moins le soutient financièrement. Citons Maurice Rafjus, sans trop caricaturer, on peut dire que les juifs français, auxquels on peut ajouter les juifs immigrés les plus anciens, constituent une partie de la grande et moyenne bourgeoisie. Les juifs immigrés, dans leur écrasante majorité, sont essentiellement artisans ou ouvriers. Ce groupe, proche de la classe ouvrière française, représente pourtant une petite bourgeoisie en devenir. Fin de citation. Le refus du sionisme est net, sans aucune ambiguïté, voire virulent, de la part du Bund. Ce dernier est caractérisé comme un nationalisme similaire au fascisme, un nationalisme hideux, dit Ehrlich. Le projet d'un foyer juif est rejeté, qu'il ait pris la forme de l'installation massive de juifs en Ouganda en 1903, projet commun à Theodor Herzl et au gouvernement britannique, ou celle d'un « retour » entre guillemets en Palestine. Pour le Bund, la question est de rester et de vivre là où on est. On cite souvent l'assimilation comme solution possible, mais cela signifie disparaître tant du point de vue de la religion que du point de vue de la culture. Il faut devenir des juifs non pratiquants, voire des convertis. Cela est très discutable, surtout après le siècle passé. Où finit l'assimilation, où commence le reniement ? En quoi un juif assimilé est-il un juif ? Cette recherche du droit d'entrée dans le monde occidental dont parlait Heine aboutit immanquablement à une perte de culture. Il existe enfin l'égalité des droits, telle qu'elle fut affirmée par la Révolution française. Elle n'est pas l'assimilation. Cependant, la spécificité de l'oppression et sa réalité nécessitent des réponses concrètes, ne serait-ce que du point de vue de la transmission de la culture et de la langue, les écoles. Et qui porte cette revendication de l'égalité des droits ? Pour Marx et les siens, le prolétariat au pouvoir, parce que réalisant l'universel et abolissant la propriété privée, il permet l'égalité des droits. Le Bund entend apporter une réponse originale. Il regroupe les ouvriers juifs pour la défense de leurs intérêts spécifiques. Il exerce une forte critique du sionisme, mais également du cléricalisme judaïque et de la religion elle-même. En ce sens, il est anti-religieux, bien plus que laïque, à un point tel que son anti-religiosité a pu le faire passer pour un parti dont le socialisme serait une religion. Cela est faux. Il n'est pas un parti messianique, car son rapport à la religion est particulier. Il ne cherche pas à la remplacer. Le second trait de l'idéologie du Bund qui a beaucoup contribué à son originalité est son insistance sur les questions culturelles et nationales. S'agissant de la question nationale, il est possible, selon certains historiens, de dire en simplifiant que le Bund traversa plusieurs étapes. Du début jusqu'en 1901, la question fut généralement oubliée. C'était une citation donc du livre de Minceles. Ce qui est très perturbant pour une organisation qui se pose une question de type national. Voilà pourquoi la date de proclamation du Bund, 1897, si elle est très intéressante par sa proximité chronologique, quasi simultanée avec celle du sionisme, ne doit pas prêter à confusion. À la formule fondation, le principal théoricien de la deuxième génération, Medem, répondait « Fondé, le terme est impropre. Nous sommes loin des querelles doctrinales qui secouent les marxistes russes et plus généralement les révolutionnaires russes. Pour le moment, car il fallut vite se positionner. » Débat et pratique des révolutionnaires sous le tsarisme. Quoi qu'il puisse en paraître, les trois choix du Bund sur ces questions ne sont pas obligatoirement liés. Le premier choix, on l'a vu, est de défendre les intérêts spécifiques du prolétariat juif. Demande des plus légitimes. Et la social-démocratie russe n'y voyait aucune objection, y compris sous la forme organisée du Bund en son sein. Deuxième choix, théorie celui-là, s'inspirant des dirigeants socialistes autrichiens. Le Bund défend l'autonomie culturelle, c'est-à-dire l'existence d'une nationalité sans territoire. Dans le cas des dirigeants austro-hongrois, car avant 1914, la structure étatique compliquée couvrant le sud-est de l'Europe est l'Empire d'Autriche-Hongrie, farouche partisan d'un marxisme pacifique, cette théorie a l'énorme avantage de ne pas poser la question de la destruction de cet empire. Ce n'est pas le cas du Bund, leur relation à l'empire tsariste n'ayant rien à voir avec la dévotion impériale des socialistes viennois. Mais ainsi, le Bund opère une sorte de séparatisme, c'est le terme utilisé par Lénine, avec le reste du prolétariat. Séparatisme sans base territoriale, donc sans revendication d'indépendance possible. Cela est assez compliqué quand on pense à la pratique. Pour vivre ensemble, on n'est pas obligé d'être identique. L'égalité des droits, ce n'est pas l'assimilation obligatoire, dit Stamboul. Comment faire ? La troisième controverse réside dans la volonté du Bund d'être la seule organisation représentative du prolétariat juif au congrès de 1903 contre futurs bolcheviks et futurs mensheviks réunis. Le refus du congrès fit partir le Bund et au passage donner la majorité aux bolcheviks. Les trois controverses sont liées, mais ne sont pas identifiables. Le Bund prit une position internationaliste pendant la guerre de 1914, tempérée dans la mesure où il n'existait aucun État avec lequel il pouvait pratiquer l'union sacrée. 1917. Le Bund se trouva au début de la révolution de 1917 un parti solide, implanté, respecté, probablement le parti le plus fort de ceux qui se réclament du socialisme. Personne ne lui conteste sa qualité, ni ses titres de révolutionnaire. L'organisation de milices armées contre les pogroms est un signe. Deux événements à quelques jours d'intervalle vont littéralement dynamiter le Bund et ses prétentions de représentation. D'une part, la révolution d'octobre, qui porte les espoirs de la révolution de février. D'autre part, la déclaration Balfour, qui accorde un foyer aux Juifs en Palestine, propulsant le sionisme comme porteur des revendications juives et lui assurant une popularité non négligeable. Entre octobre et Balfour, le Bund est déchiré, ne soutenant aucun des deux, plus les combattants tous les deux. La séparation des Églises et de l'État. Revendication démocratique par excellence, et que le gouvernement provisoire avait oublié et décrété en janvier 1918 par les soviets, comme est décidée la suppression du passeport intérieur, dont une des mentions était la nationalité, signe discriminant de premier plan. Il ne semble pas, du moins dans la documentation citée ici et dans les recherches effectuées, que le Bund y ait accordé une grande importance. Au contraire, il s'engage dans la lutte contre la révolution, qualifié de dictature, malheur, folie. Mais dès la victoire de la Révolution, on entend une autre chanson. Le Bund explose et une partie non négligeable de ses dirigeants vole au secours de la victoire. Les autres, dont Rabinovitch, Alter, rejoignent la Deuxième Internationale. Donc certains rallient le pouvoir bolchevique, d'autres le combattent violemment et certains font les deux successivement. Peut-on dès lors parler de parti ou d'union ? Il semble que la formule « traversée du désert » utilisée pour la période 1918-1925 est erronée. C'était le Bund qui était un désert et non ce qu'il traversait. On ne peut exciper de la répression stalinienne incontestable un brevet d'antistalinisme pour le Bund, car le stalinisme a absolument tout réprimé sur son passage, peu importe la couleur politique, et surtout quand le réprimé était peu ou prou suspect de judaïsme. Moshe Rafes, figure de premier plan du Bund, ministre de Petliura, dirigeant de l'Ukraine indépendantiste et pogromiste, est devenu un stalinien de haut rang. Ce n'est pas un hasard si Trotsky rappelle son passé alors qu'il est devenu un dignitaire de l'internationale communiste stalinisée, notamment en Chine. Le texte de Rafes en 1920, paru dans le bulletin communiste et sur marxiste.org, est indigent. Il ne sert qu'à habiller son retournement de veste et à faire oublier qu'il fut un ministre chez Petliura. Il y a une carrière de haut bureaucrate stalinien jusqu'à son arrestation en 1938. D'autres dirigeants du Bund ont eu la même carrière. Et le rapport à la religion. On définit souvent le Bund comme un parti laïque, ce qui est vrai, mais, reconnaissons-le, ne veut pas dire grand-chose. Il refuse depuis ses origines le cléricalisme et tous les côtés rétrogrades du judaïsme, pratiquant une sorte de modernisation de celui-ci, modernisation qui serait une protestantisation, du judaïsme. En cela, il participe d'un mouvement de sécularisation générale, l'intégration passant souvent par la conversion au luthérianisme, comme pour les parents de Medem, ou son intérêt pour celui-ci. Ainsi, Alter a proposé que le parti distingue entre le cléricalisme politique d'Aguda à Israël, auquel il devait résister sans broncher, et la religion comme l'affaire de l'individu, comme les partis sociaux-démocrates occidentaux. Pour prévenir le choc que cela pourrait infliger à ses camarades, Alter a rapidement souligné que la reconnaissance du droit de l'individu à la foi religieuse ne signifiait en aucun cas un retrait de la croyance du Bund en une société laïque ouverte. Son intention était de séparer la religion de la politique. C'est seulement ainsi que la religion deviendrait l'affaire personnelle de l'individu. Sa prescription favoriserait également la lutte pour la société laïque ouverte dont l'un des fondements était la tolérance religieuse. Notons que deux notions indissociables et fondatrices de la laïcité sont totalement absentes. La séparation des églises et de l'État et la liberté de conscience. Le projet n'est pas une société fondée sur la laïcité, mais sur la tolérance religieuse. Non seulement Alter reprend les pensifs sur la religion à faire privée développée par Van der Velde, critiquée par Lénine, mais il les théorise et les justifie car il prétend ne pas choquer ses camarades. Toute reprise de la formule « religion à faire privée » est l'héritage de la Deuxième Internationale et d'Alter contre Lénine, explicitement. Mais après tout, on n'est pas obligé de préférer ce dernier. Conclusion. Impossible spécificité, dit Robert Paris à propos du Bund. Cela nous semble assez juste. Nous aurions tendance à penser que ce n'est pas l'extermination nazie qui mit un terme au Bund. Celui-ci s'est dissous comme organisation en 1949, se répartissant en sections territoriales. C'est la création de l'État d'Israël, consacrant en quelque sorte la victoire étatique du projet sioniste dans sa double ambition de parler au nom des Juifs et de parler depuis un territoire qui a abouti à ce résultat. La critique impitoyable et courageuse du sionisme et de sa prétention à parler au nom de tous les Juifs est maintenant l'œuvre de l'UJFP. Pour autant que nous puissions en juger de l'extérieur, cette dernière surmonte, dans un tout autre contexte, les contradictions et les équivoques du Bund. Elle n'a pas un projet politique à présenter, des aspirations et des revendications, mais un programme politique. Elle se situe d'un point de vue universaliste et comme héritière de la culture juive. Elle a le respect mérité des démocrates et la haine méritée également de tous les réactionnaires. Mais s'agit-il d'une continuité du Bund ? Voilà, c'était donc la conclusion de cet article, de ce dossier qui a été rédigé par Jean-Marc Chiappa, donc président de l'IRELP, l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Je rappelle, après la lecture donc de ce dossier, le livre dont on a également parlé à ce micro, « Judaïcité, laïcité et libre pensée », qui est extrêmement intéressant. Je ne saurais trop le conseiller. Et à ceux qui seraient intéressés pour se le procurer, de prendre contact avec le groupe Fred Zeller, contact@lpdordogne.fr, pour nous contacter par courrier électronique. Voilà. Alors, il reste quelques minutes. Je vous propose... Alors, j'ai plusieurs choses qui sont très intéressantes. Il y a un article passionnant de Olivier Lecourt-Grandmaison sur la question de Vincent Bolloré et l'offensive de Vincent Bolloré dans les médias. Et également un article de Valentine Zuber qui situe sur la question donc, de la loi de 2004 qu'on a évoquée la semaine dernière. Donc je vais vous lire cet article de contribution donc, de Valentine Zuber. Elle dit « La loi de 2004 sur le voile pose des difficultés insurmontables. 20 ans après la loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction du port des signes religieux à l'école, Valentine Zuber rappelle que cette loi a constitué un tournant majeur dans l'interprétation de la laïcité à la française, alors que le voile a été jugé pour la première fois comme un outil prosélyte en lui-même. La loi du 15 mars 2004 marque certainement un tournant majeur dans la définition juridique de la laïcité française, alors que depuis la loi de séparation des églises et de l'État de 2005, le devoir de réserve laïque s'applique d'abord et essentiellement à l'État lui-même et à ses représentants auprès des citoyens, celui-ci s'étend maintenant à une certaine catégorie des usagers des services publics, les élèves de l'enseignement primaire et secondaire public. Du point de vue des libertés fondamentales, cette extension de l'exigence de neutralité en matière d'affichage des convictions religieuses constitue d'abord une limite exceptionnelle, mais ciblée, au droit à la liberté de religion et de conviction garantie par les grands textes internationaux des droits humains ratifiés par la France. Le Conseil d'État, gardien des libertés, interrogé au sujet des élèves voilés, estimait encore en 1989 que la liberté de conscience, citation, reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'ils soient portés atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité. Fin de citation. Ce qui se traduit, poursuit donc Valentine Zuber, par l'idée que si les élèves respectent bien leurs obligations en tant qu'usagers de l'école et s'abstiennent de tout prosélytisme, le port de signes religieux ne peut dès lors leur être interdit, même dans l'enceinte de l'école. La doctrine laïque classique était encore jusque-là respectée à la lettre. Le voile, échec de l'intégration ? Les choses ont peu à peu évolué à la suite de débats passionnés dans l'espace politico-médiatique face à la multiplication du nombre de jeunes filles voilées dans certains établissements scolaires. Le signe religieux est peu à peu apparu à certains comme étant un outil prosélyte en lui-même et à cet égard légitimement condamnable. On a alors commencé à analyser ce phénomène aux prises de la remise en cause de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la pression communautaire supposée sur le comportement des jeunes filles musulmanes. Le voile a donc désormais été lu comme le signe visuel d'un échec de l'intégration républicaine et un défi majeur posé au principe du vivre ensemble. Après bien des atermoiements, les parlementaires, toutes tendances confondues ou presque, ont été sensibles aux appels du monde enseignant et se sont ainsi montrés soucieux de l'offensive émergente des milieux intégristes contestataires des valeurs séculières vers les écoles privées. Certes, à la rentrée, suivant la loi, la réduction drastique du nombre des jeunes filles voilées a fait croire que le sujet était réglé. Mais à quel prix ? En dépit des dispositions de la loi qui prévoyaient un dialogue préliminaire à toute exclusion entre les autorités scolaires et les familles des jeunes filles récalcitrantes, nombre d'entre elles sont effectivement sorties de l'enseignement public. Plusieurs ont été alors simplement déscolarisées, ce qui augurait mal de leur réelle émancipation future. D'autres se sont tournés vers les écoles privées, en particulier celles sous contrat d'association avec l'État, qui, bien que participant du service public d'enseignement, c'est une formulation qu'on peut discuter d'ailleurs, mais bon, là, ce sont les propos de Valentine Zuber, donc je ne les modifie pas, bien évidemment, n'étaient pourtant pas astreintes à la loi de 2004. Elles ont pu alors, grâce à ce subterfuge, garder leur voile au sein de l'école. Ce système de deux poids, deux mesures a évidemment mis à mal le projet initial, mais qui était l'émancipation des jeunes filles musulmanes vis-à-vis de leur environnement familial ou communautaire. Mais surtout, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que d'autres signes que le voile se manifestent à nouveau dans les enceintes scolaires, obligeant les chefs d'établissement à faire l'exégèse de cette soudaine multiplication des longues jupes noires, des bandanas ou serre-têtes couvrant les cheveux, et plus récemment encore des abayas de la rentrée 2023. Deux difficultés paraissent dès lors insurmontables. La capacité des fonctionnaires d'un État laïque de juger de la fonction religieuse de tel ou tel atour, alors qu'elle est aussi ardemment discutée au sein des instances musulmanes. Mais aussi, de manière peut-être plus fondamentale, celle de savoir jusqu'où peut aller la police du vêtement féminin dans un État qui se veut à la fois libéral et féministe. On le voit, la loi du 15 mars 2004 n'a pas résolu ce pourquoi elle a été formulée, et il est probable que cette question toujours brûlante des signes religieux à l'école reste encore pendante dans les années à venir. Voilà, fin de la contribution de Valentine Zuber qui a été publiée sur dans le quotidien La Croix, je crois que c'était le 19 mars. Voilà, alors maintenant nous en arrivons au moment du choix musical que je vous propose. C'est une chanson de Jean Ferrat, Le bruit des bottes, que nous écoutons. Et c'est une chanson assez ancienne, mais les paroles peuvent être entendues de manière très actualisée.
C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrotte, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochet en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coup d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac. on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse au petit nord-africain. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'il me ratatine pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du Paul-Aidé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester qu'en 1967 je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me coupe les 10 doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Hara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri des Pinochet en puissance, travaille aussi du képi. Travaille aussi du képi.
Voilà, bon, belle chanson de Jean Ferrat qu'on écoute toujours avec plaisir. Pour la semaine prochaine, bien évidemment, lundi 11h30, toujours la chronique du groupe Fretzeler, mais ce sera une chronique enregistrée, donc probablement en fin de semaine. Et je reviendrai donc sur d'autres sujets d'actualité, certainement sur la question donc de la Palestine, puisqu'on voit que les milliers de morts s'ajoutent aux milliers de morts chaque semaine et que la volonté de destruction du peuple palestinien par Netanyahou et son gouvernement apparaît de plus en plus clairement chaque jour. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement important. Voilà, je vous donne donc rendez-vous pour cette chronique diffusée lundi prochain, toujours sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.